Chapitre 7.
Regarde-moi dans les yeux, mon enfant, dit Nietzsche d'une voix très douce en prenant entre le pouce et l'index le menton de la fille. La sœur de l'obscurité étudia le visage osseux de la gamine, s'attardant sur ses grands yeux noirs écarquillés de terreur. Un regard où il n'y avait pas grand-chose d'autre à lire. Cette fille n'avait aucun mystère. La maîtresse de la mort se redressa, bizarrement déçue. Il lui arrivait souvent de sonder le regard des gens, puis de se demander pourquoi elle avait agi ainsi. On eût dit qu'elle cherchait quelque chose sans savoir quoi. Elle continua à inspecter les rangs de villageois alignés d'un côté de la place principale. Les fermiers et les habitants des petites communautés environnantes devaient aller au village plusieurs fois par mois, les jours de marché, et même y passer la nuit quand ils venaient de trop loin. On n'était pas un jour de marché, mais elle se contenterait de ce qu'elle avait sous la main. Quelques-uns des bâtiments serrés les uns contre les autres avaient un étage, une pièce ou deux où logeait la famille propriétaire de la boutique du rez-de-chaussée. Nietzsche identifia une boulangerie, l'échoppe d'un cordonnier, un magasin de poterie, une herboristerie, un marchand d'articles en cuir et un forgeron. Rien d'inhabituel en somme. Tous ces villages se ressemblaient, et leurs habitants, en général, travaillaient dans les champs de céréales et de sorgho. Ils avaient quelques animaux et entretenaient soigneusement d'assez grands jardins potagers. Le fumier, la paille et l'argile ne manquant pas, ils vivaient dans des maisons en torchis. Certaines boutiques à un étage arboraient fièrement une charpente et des bardeaux, mais c'était l'exception qui confirmait la règle. Derrière Nietzsche, des soldats armés jusqu'aux dents emplissaient la place. Épuisé par une longue chevauchée sous un soleil de plomb, il s'ennuyait à mourir et devait bouillir d'envie de passer à l'action. Une mise à sac, même pour un but minable, était toujours un moyen séduisant de se distraire. Plus que piller, ces hommes adoraient détruire, sauf quand il s'agissait des femmes. Les villageoises le sentaient et elles n'osaient pratiquement pas tourner la tête vers les soudards. En passant en revue cette assemblée de miteux, Nietzsche les regarda tous dans les yeux. Ils crevaient de peur à cause d'elles, comme si les soldats étaient moins dangereux. Et pour tout dire, ils avaient raison. La maîtresse de la mort. Ce surnom la laissait indifférente, même s'il lui semblait bien choisi. Quand on s'adressait à elle en l'utilisant, ça ne lui faisait pas plus d'effet que lorsqu'une servante annonçait qu'elle avait reprisé une de ses paires de bas. Quelques-uns de ces crétins fixaient l'anneau d'or que Nietzsche portait à la lèvre inférieure. Il devait avoir entendu dire qu'une femme ainsi marquée était l'esclave privée de l'empereur Jagang, soit un être encore inférieur à un ramassis de minables paysans. Mais ce qu'il pensait d'elle la laissait autant de marbre que le surnom dont il l'avait affublée. Dans ce monde, Jagang possédait uniquement son corps, et le gardien prendrait à jamais possession de son âme quand elle résiderait dans le royaume des morts. Ici, son existence physique était un calvaire. Là-bas, sa survie spirituelle serait une épreuve mille fois plus terrible. La vie et la douleur étaient les deux faces d'une pièce de monnaie, et il fallait s'y résigner. Une colonne de fumée noire montait dans le ciel d'un bleu parfait. Sur le feu de cuisson communal, une énorme broche permettait de faire rôtir deux ou trois cochons en même temps. Avec des cloisons et un toit amovible, il était sûrement possible de transformer en fumoir cette rôtisserie en plein air. Pour d'autres activités, au moment de l'abattage des bêtes, mieux valait travailler à l'air libre. La fabrication du savon, par exemple. Près du feu, Nietzsche aperçut une fosse à cendres de bois qui servait à la préparation de la lessive. À côté reposait un grand chaudron en fer parfait pour le traitement de la graisse animale. La lessive et la graisse étaient les deux composants indispensables pour obtenir du savon. Bien entendu, certaines femmes aimaient le parfumer en y ajoutant des herbes aromatiques, par exemple de la lavande ou du romarin, mais ça n'avait rien d'obligatoire. Quand elle était enfant, la mère de Nietzsche, chaque automne, au moment de l'abattage, l'envoyait aider les gens à fabriquer du savon. Assister les autres, affirmait-elle, était un excellent moyen de se forger le caractère. La maîtresse de la mort gardait encore des cicatrices sur le dos des mains et les avant-bras aux endroits où elle avait été brûlée par des projections de graisse chaude. Ces jours-là, sa mère l'obligeait toujours à mettre une jolie robe, pas pour impressionner les villageois, tous mal attifés, mais afin que sa fille soit mal à l'aise de se faire remarquer ainsi. De fait, sa coquette robe rose ne lui avait jamais attiré l'admiration de personne. Alors qu'elle remuait la graisse bouillante avec une longue louche en bois, pendant que quelqu'un d'autre y versait de la lessive, certains enfants, désireux de brûler sa robe, s'arrangeaient pour qu'elle soit aspergée d'éclaboussures. Au passage, ils blessaient Nietzsche, mais sa mère assurait que ces brûlures étaient le châtiment du Créateur. Dans un silence de mort uniquement troublé par les hennissements lointains des chevaux attachés derrière les bâtiments, les toussotements nerveux de quelques hommes et le crépitement des flammes, Nietzsche continua son inspection. Les soldats ayant englouti les deux cochons que les villageois s'étaient fait rôtir, l'odeur de viande cuite chassée par le vent avait été remplacée par les relents âcres de la sueur et la puanteur typique des lieux où cohabitaient trop d'êtres humains. « Vous savez tous pourquoi je suis ici ?» dit Nietzsche. Mais pour quelle raison m'avez-vous forcé à faire un si long voyage ? Elle regarda la foule, quelques 200 personnes alignées en rang devant elle. Les soldats qui avaient forcé les villageois à sortir de leur maison ou à revenir des champs étaient beaucoup plus nombreux. Nietzsche s'arrêta devant un homme que beaucoup de gens, avaient-elles remarqué, regardaient furtivement, comme s'il était leur chef. « Alors, pourquoi ? » demanda-t-elle. Quand il baissa humblement la tête, le vent fit volter les rares cheveux gris de l'homme. « Maîtresse, nous n'avons rien à vous donner. Ce village est très pauvre et... menteur. Vous aviez deux cochons, mais vous préfériez faire ripaille plutôt que d'aider les gens dans le besoin. Il faut bien que nous mangions. »
Ce n'était pas un argument, mais un plaidoyer.
« Comme tout le monde. Pourtant, certains n'ont pas votre chance. Ceux-là s'endorment tous les soirs en crevant de faim. » Quelle tragédie! Chaque jour, des milliers d'enfants meurent d'inanition et des millions d'autres crient famine. Et pendant ce temps, des égoïstes comme vous, dans un pays prospère, se remplissent la panse sans remords. Ces enfants ont le droit de vivre, et ceux qui vivent dans l'opulence doivent leur tendre la main. Nos soldats aussi ont besoin de manger. Crois-tu que lutter pour le bien commun soit facile? Tous les jours, ces braves risquent leur vie afin que des hommes comme toi puissent élever leurs enfants dans un monde civilisé et digne. Comment oses-tu regarder ces héros dans les yeux? Si chacun ne consent pas à un sacrifice, les combattants mourront de faim et nous serons vaincus. »
Tremblant de tous ses membres, le villageois ne dit plus rien.
« Que dois-je faire pour que vous compreniez tous votre devoir envers les autres? Assister plus malheureux que soi est une obligation morale et le seul moyen d'obtenir le bonheur pour tous. »
La vision de Nietzsche se troubla soudain. La torturant comme si on lui enfonçait des aiguilles chauffées au rouge dans les oreilles, la voix de Jagang retentit sous son crâne.
« Tu es obligé de discourir comme ça. Désigne des otages et fais un exemple avec eux. Apprends à ces chiens ce qu'il en coûte de m'ignorer. »
Nietzsche tituba, aveuglé par la souffrance. Au lieu de résister, elle laissa la douleur l'envahir et observa le phénomène comme s'il frappait quelqu'un d'autre. Ses abdominaux se tétanisèrent et elle eut le sentiment qu'une lance à pointe barbelée lui déchirait les entrailles. Les bras le long du corps, elle attendit que le courroux de Jagang s'apaise ou qu'il décide de la tuer. Elle perdit toute notion du temps, comme chaque fois qu'il lui infligeait ça. Grâce au témoignage de tierces personnes et pour avoir vu l'empereur torturer ainsi d'autres victimes, elle savait que la séance durait parfois quelques secondes. En d'autres occasions, cela se prolongeait pendant des heures. Un gaspillage d'énergie pour l'empereur, car l'objet de sa colère n'était plus en état de faire la différence. Soudain, incapable de respirer, Nietzsche eut le sentiment qu'une main invisible lui serrait le cœur pour le forcer à s'arrêter de battre. Les poumons en feu, elle sentit ses genoux se dérober.
« Ne me désobéis plus jamais !»
L'air circula de nouveau dans la trachée artère de la maîtresse de la mort. Comme toujours, le châtiment de Jagang lui laissa un atroce goût dans la bouche, les muscles de sa mâchoire lui firent un mal de chien, ses oreilles bourdonnèrent et elle eut l'impression que ses dents allaient se déchausser. Quand sa vision se rétablit, elle fut étonnée, comme chaque fois, de ne pas voir une flaque de sang s'étaler à ses pieds. Se tâtant la bouche et une oreille, elle ne ramena pas de fluide vital au bout de ses doigts. Pourquoi Jagang avait-il pu s'introduire dans son esprit à cet instant précis? Il n'y avait pas accès en permanence alors qu'il pénétrait à volonté dans celui des autres sœurs. Ignorant pourquoi il s'était interrompu, certains villageois regardaient fixement Nietzsche. Les jeunes hommes et quelques vieux aussi lorgnaient furtivement ses charmes. Habitués à voir des femmes engoncées dans des sacs qu'elles appelaient des robes, ils n'avaient jamais posé les yeux sur une beauté comme elle. Et même déshabillées, leurs compagnes, usées par le labeur et les grossesses à répétition, ne devaient pas être très jolies à voir. Grande, jeune et en pleine santé, Nietzsche portait une fine robe noire qui mettait ses courbes en valeur et dont le décolleté devait paraître vertigineux à ses bouseux. Nietzsche se fichait comme d'une guigne d'éveiller le désir des hommes, sauf quand cela servait ses intérêts, et aujourd'hui ce n'était pas le cas. Négligeant les ordres de Jagang, elle continua de passer les villageois en revue. Obéir n'était pas dans sa nature, et les punitions la laissaient de marbre. Encore que, en un sens, elle en tirait plutôt une certaine satisfaction.
« Nietzsche, pardonne-moi. Tu sais que je ne veux pas te faire de mal. »
Ignorant la voix de son maître, Nietzsche dévisagea les villageois qui osaient la regarder. Elle adorait sonder le regard des gens assez courageux pour le braquer sur elle, surtout quand il brillait de terreur. Et bientôt ces minables trembleraient de peur pour d'excellentes raisons.
« Nietzsche, il faut m'obéir, sinon tu me forceras à te blesser grièvement. Aucun de nous deux ne veut que ça arrive, mais si tu me défies, je risque de finir par te tuer. »«
Si ça vous amuse, n'hésitez pas, » répondit mentalement Nietzsche. Ce n'était pas de la provocation, simplement l'expression d'un profond désintérêt pour son sort.
« Tu sais que je n'en ai pas envie, Nietzsche. »
Sans la douleur, la voix de Jagang ne gênait pas plus la maîtresse de la mort qu'une mouche qui voltait autour d'elle. L'ignorant, elle reprit son discours. « Avez-vous idée des efforts que nous consentons pour vous assurer un avenir radieux? Ou rêvez-vous de bénéficier de nos sacrifices sans y contribuer? Beaucoup de soldats ont donné leur vie en affrontant vos oppresseurs. Nous luttons pour que tous les peuples profitent de la prospérité à venir. Dans votre propre intérêt, vous devez nous aider. C'est une obligation morale, comme de voler au secours des déshérités. » L'air agacé, le commandant Cardiff vient se camper devant Nietzsche, qui ne fut pas ému le moins du monde par son mécontentement. Cet homme n'était jamais satisfait de rien. Enfin, de presque rien, pour être honnête.
« Les peuples apprennent la vertu à force de sacrifices et de discipline, » déclara-t-il. « L'ordre t'a chargé de leur enseigner l'obéissance, pas de leur prodiguer des cours d'éducation civique. »
Le commandant était certain de dominer Nietzsche, car lui aussi l'avait torturé. Mais elle avait supporté les outrages de Kadar Cardiff avec le même détachement souverain qui interdisait à Jagang d'avoir une réelle emprise sur elle. Pour éprouver quelque chose, Nietzsche devait souffrir atrocement. Et c'était toujours mieux que le vide qu'il habitait le reste du temps. Kadar ne s'était sûrement pas aperçu que l'empereur venait de la punir, et il ne savait rien de ses ordres, car Jagang ne s'introduisait pas dans son esprit. Manipuler mentalement des êtres dépourvus de dons magiques ne lui était pas aisé. Il pouvait le faire, mais pourquoi gaspiller son énergie puisqu'il avait des intermédiaires à sa disposition? Avec les sujets dotés d'un pouvoir, il disposait d'une sorte de levier qui lui facilitait la tâche. En somme, ses victimes, dans ce cas précis, devenaient des complices involontaires. Cardiff baissa son visage ridé vers Nietzsche, qui leva les yeux pour soutenir son regard. Très grand, l'officier avait de quoi impressionner avec les bandes de cuir qui se croisaient sur sa poitrine, sur un plastron étincelant, et les armes qui pendaient à sa ceinture, au moins aussi brillantes que sa cotte de maille. À l'occasion, Nietzsche l'avait vu broyer la gorge d'un homme d'une seule main. En guise de médaille, il arborait sur tout le corps des cicatrices récoltées lors de ses nombreuses batailles. Et Nietzsche les connaissait toutes. Peu d'officiers pouvaient se vanter d'avoir à ce point la confiance de l'empereur. Engagé dans l'ordre dès son adolescence, Kadar était sorti des rangs au mérite, et il avait aidé Jagang à étendre son empire au-delà d'Alter Rang, son pays natal. Au bout du compte, l'ancien monde tout entier était tombé entre les mains de celui qui marche dans les rêves. Cardiff était le héros de la campagne de la Petite Brèche. Inversant presque tout seul le cours de la bataille, il avait traversé les lignes ennemies et tué de sa main les trois grands rois qui avaient uni leurs forces pour écraser l'ordre impérial,
avant que ces discours généreux ne puissent enflammer l'imagination de millions d'hommes isolés dans une multitude de royaumes, de baronnies, de clans, de cités-états et d'immenses régions contrôlées par des seigneurs de la guerre aux alliances de circonstances. L'ancien monde était à l'époque une poudrière qui attendait l'étincelle de la révolution. La bonne parole de l'ordre l'avait enfin fait exploser. Si les hauts prêtres étaient l'âme de l'ordre, Jagang restait ses os et ses muscles. Fort peu de gens mesuraient le génie de l'empereur. En lui, ils voyaient un féroce guerrier ou un magicien capable de marcher dans les rêves, mais il était beaucoup plus que cela. Il lui avait fallu des décennies pour mettre l'ancien monde à genoux et propulser l'ordre vers les sommets de la gloire. Durant ses années de guerre, il avait pris le temps d'imaginer et de faire construire le réseau de routes qui lui permettait de déplacer très vite des troupes et du matériel militaire. Dans chaque pays annexé, il avait mis des hommes au travail pour participer à l'élaboration de cette gigantesque toile d'araignée. Aujourd'hui, il était en mesure de maintenir les communications en toutes circonstances et de réagir aux situations imprévues plus vite que n'importe qui. Des royaumes jadis coupés du reste de l'ancien monde lui étaient désormais reliés. Avec ses voies de communication, Jagang les avait réunis et des dizaines de peuples étaient prêts à marcher avec lui sur le chemin du triomphe. Kadar Cardiff avait participé à cette grande œuvre. Plus d'une fois, il avait été blessé pour sauver la vie de Jagang, qui avait lui-même reçu un carreau d'arbalète destiné à son compagnon. Si l'empereur avait un ami, une éventualité peu probable, ça ne pouvait être que l'irascible commandant. Nietzsche avait rencontré Kadar lorsqu'il était venu prier au palais des prophètes à Tanimura. Le vieux roi Grégory, jusque-là maître du royaume, avait disparu sans laisser de traces. Profondément dévot, Kadar, avant chaque bataille, implorait le Créateur de lui accorder la victoire. Après, il lui recommandait l'âme des hommes qu'il avait tués. Le jour de sa rencontre avec Nietzsche, on prétendait qu'il voulait prier pour le salut éternel du roi Grégory. Du jour au lendemain, l'ordre impérial avait pris le pouvoir à Tanimura et la population avait festoyé pendant des jours dans les rues. 3000 ans durant, installés dans le palais des prophètes, les sœurs de la lumière avaient vu les gouvernements se succéder. Sous l'influence de leur dame abbesse, elles tenaient la politique pour une futilité qu'il convenait d'ignorer. Leur mission, pensait-elle, les mettait au-dessus de ces contingences. Habituées aux révolutions, elles avaient cru dur comme fer qu'elles seraient toujours là quand l'ordre impérial aurait depuis longtemps sombré dans l'oubli. Une grossière erreur. De 20 ans plus jeune, à l'époque, Kadar Cardiff était un beau et fier conquérant qui venait prendre de force la capitale du royaume. Beaucoup de sœurs l'avaient trouvé fascinant. Pas Nietzsche. Mais lui s'était passionnément intéressé à elle. Bien entendu, l'empereur ne chargeait pas des hommes de l'envergure du commandant de pacifier les royaumes conquis. Kadar avait une mission bien plus importante. Veiller sur Nietzsche. Que Jagang tenait pour un de ses biens les plus précieux. La maîtresse de la mort cessa de s'intéresser à Cardiff et sonda de nouveau la foule. Puis, elle riva les yeux sur le type aux cheveux gris.
« Nous ne pouvons pas permettre que ce village se dérobe à ses responsabilités envers les déshérités et refuse de participer à la renaissance de l'humanité. »«
Par pitié, maîtresse, nous n'avons rien.
Négliger la cause est une trahison. »
L'homme jugea plus prudent de ne pas contredire son interlocutrice sur ce point.
« Vous ne semblez pas comprendre que cet officier derrière moi veut vous prouver que l'ordre impérial est sans pitié envers ceux qui ne s'acquittent pas de leurs devoirs. Vous avez tous entendu des histoires à ce sujet, mais cet homme a l'intention de vous faire découvrir la triste réalité. Et croyez-moi, elle dépasse toujours l'imagination. »
Nietzsche dévisagea l'homme, attendant sa réponse.
« Maîtresse, il nous faut un peu de temps. Nos récoltes sont prometteuses, et quand viendra la moisson, nous contribuerons volontiers au combat pour
la renaissance de l'humanité et son nouveau départ. »«
Oui, maîtresse, la renaissance et le nouveau départ. »
Dès que l'homme eut rebaissé la tête, Nietzsche avança vers les villageois.
Elle n'était pas venue récolter un butin, mais semer la terreur. Et l'heure d'agir avait sonné. La maîtresse de la mort s'arrêta.
distraite par le regard plein d'innocence et d'émerveillement que venait de lui jeter une jeune fille. Pour elle, tout était nouveau et elle voulait tout voir. Dans ses yeux noirs, Nietzsche vit briller la flamme la plus rare, fragile et périssable qui soit. Celle d'une âme candide que la douleur et le mal n'avaient pas encore affectée. Elle prit le menton de la gamine et sonda son regard. C'était un de ses plus vieux souvenirs. Sa mère, debout devant elle, la tenant ainsi et la dévisageant de la même façon. Elle aussi avait le don, mais elle le considérait comme une malédiction et un défi moral. Une malédiction parce qu'il conférait à une personne des pouvoirs que les autres n'avaient pas, et un défi moral parce que la dignité imposait de ne jamais utiliser en mal cette supériorité. La mère de la maîtresse de la mort ne recourait presque jamais à son don. Tandis que des serviteurs s'acquittaient des tâches quotidiennes, elle passait le plus clair de son temps avec son petit groupe d'amis, se consacrant à des quêtes spirituelles. « Au nom du Créateur, » disait-elle souvent en se tordant les mains, « le père de Nietzsche est un monstre !» À cet instant, quelques-unes de ses compagnes lui murmuraient immanquablement toute leur sympathie. « Pourquoi m'a-t-il chargé d'un pareil fardeau? Je crains que son âme immortelle soit hors de portée de nos prières et de la rédemption. » Cette déclaration lui valait à chaque fois des hochements de tête entendus. Les yeux de cette femme étaient aussi noirs que la carapace d'un cafard. Nietzsche les trouvait trop rapprochés et elle détestait ses lèvres perpétuellement pincées, comme pour exprimer une éternelle désapprobation. Bref, elle n'avait rien d'aimable et, aux yeux de sa fille en tout cas, était totalement dépourvue de beauté. Bien entendu, ses amis pensaient le contraire et il ne manquait jamais une occasion de le claironner. Selon la mère de Nietzsche, la beauté était une malédiction pour une femme honnête, car seules les filles de joie pouvaient en tirer un quelconque bénéfice. Intrigué par les sempiternelles tirades visant son père, Nietzsche avait fini par oser demander de quoi il était coupable. Bien sûr, sa mère lui avait pris le menton avant de répondre. « Nietzsche, tu as des yeux magnifiques, mais tu ne vois rien. Tous les êtres humains sont de misérables pécheurs. C'est le fardeau qu'ils doivent porter sur les épaules. Imagines-tu combien souffrent les gens moins gâtés par la nature que toi lorsqu'ils voient ton visage? Voilà ce que tu apportes aux autres, un peu plus de souffrance. Le Créateur t'a donné la vie pour que tu soulages les tourments de ton prochain, mais tu fais exactement le contraire. » En buvant leur thé, les terribles amis avaient échangé des murmures attristés, mais qui abondaient néanmoins en ce sens. Ce jour-là, Nietzsche avait compris qu'elle était indélébilement souillée par le mal. Plus tard, s'était-elle dit, elle comprendrait sa nature qui lui demeurait pour l'instant énigmatique. Elle plongea le regard dans les yeux noirs de la jeune innocente. Aujourd'hui, cette petite verrait des choses qu'elle n'était même pas en mesure d'imaginer. Alors, elle cesserait d'être aveugle. Pour l'instant, elle ne se doutait pas de ce qui allait arriver. Mais de toute façon, quelle misérable existence aurait-elle eue? Oui, mieux valait que les choses se passent ainsi. Pour l'adolescente aussi, l'heure avait sonné.